Audiolib présente Harlem Quartet de James Baldwin, traduit de l'anglais par Christian Bess, lu par Gaël Camilindi. Préface d'Alain Mabankou, James Baldwin ou l'iconoclaste des lettres américaines. Lorsque dans une émission télévisée, un journaliste demanda à James Baldwin si au début de sa carrière d'écrivain, il se sentait très désavantagé parce qu'il était à la fois pauvre, noir et homosexuel, il répondit avec humour qu'en ce temps-là, il pensait plutôt avoir gagné le gros lot et que sa situation était si scandaleuse qu'il lui fallait coûte que coûte trouver un moyen de la mettre en valeur. Né en 1924 dans un hôpital public de Harlem, James était pourtant prédestiné à devenir un prédicateur dans la droite ligne de David Baldwin, l'homme qu'il adopta 3 ans après sa naissance et devint son père. Le futur écrivain se défroqua dès l'adolescence, traversé par une véritable crise à la fois religieuse et personnelle, née du constat de l'hypocrisie, des préjugés et du racisme. Il fréquenta les bibliothèques publiques de Harlem pour fuir la violence de son père à son égard et à celui de sa mère, Emma Berdis Jones. Errant dans Greenwich Village, lieu de la contestation de la culture officielle américaine, menant une vie bohème, Baldwin se sentit plus à l'aise dans ce territoire de contre-culture qui allait devenir un des centres du mouvement de libération gay. Il se réfugia de plus en plus dans l'écriture, conscient que dans cet espace, sa liberté de ton serait sans limite et sa parole plus efficace. L'auteur de Harlem Quartet quitta dès l'âge de 24 ans une Amérique plus que jamais empêtrée dans la ségrégation raciale. À Paris, il retrouva son mentor, le grand écrivain Richard Wright, un des chefs de file du bouillonnement culturel de Harlem, exporté sur la rive gauche de la ville Lumière pour fuir la politique raciste de l'époque. À New York, Wright aidait son cadet en lisant ses premiers écrits et en lui conseillant des revues qui pourraient le publier. En Europe, l'aîné usera de son influence afin de faciliter les premiers pas de son protégé à Paris. Mais Wright est persuadé que l'écrivain débutant veut détruire son œuvre, et dans une certaine mesure, il n'a pas tort. Baldwin procédera peu à peu à l'assassinat de celui qu'au pays il qualifiait encore d'idole. Le nouvel exilé publiera des textes théoriques dans lesquels il mettra Wright dans le lot de ses écrivains qui confortent une littérature complice, proche de celle de Harriet Beecher Stowe, l'auteur de La case de l'oncle Tom. Cette dernière, aux yeux de beaucoup, y compris de certains intellectuels africains-américains, était pourtant considérée comme celle qui avait ouvert la voie à une inspiration romanesque anti-esclavagiste, ce dès 1852, année de la parution de cette œuvre. Le passage de relais s'opéra naturellement entre, d'un côté, un auteur qui incarnait une littérature taxée d'être détachée de la réalité du noir américain, et de l'autre, un auteur qui chroniquait la vie à la fois banale et douloureuse des laissés pour compte de Harlem. Baldwin deviendra la figure emblématique de l'écrivain américain exilé en France, vivant sans complexe son homosexualité. Cette attitude sera l'un des points de discorde avec Wright, qui ira jusqu'à dire du jeune iconoclaste « Il sait écrire, certes, mais c'est un PD ». Wright saisissait-il que son ancien poulain procédait à une véritable dissection de la société américaine dont l'idéal de la sexualité était en réalité fondé sur la masculinité ? Mieux encore, c'est cet idéal de la masculinité qui, d'après Baldwin, aurait créé les cow-boys et les indiens, les bons et les mauvais garçons, ou encore les blancs et les noirs. L'Amérique était désormais loin, et Baldwin était certain qu'il ne subirait plus les insultes de nègres, de garçons venus du ghetto, de bâtards ou de pédés. Insultes qu'il prenait à l'époque comme la récusation de l'identité qu'il s'était choisie en son âme et conscience, afin de rejeter celle qu'on voulait lui imposer et qui lui était étrangère. L'écrivain était présent sur tous les fronts. Parallèlement à son œuvre de fiction, il n'hésitait pas à se retrousser les manches, puis à descendre dans l'arène aussi bien en tant que citoyen qu'en tant que théoricien des droits civiques, dans le dessein de montrer du doigt les dérives d'une société américaine qui avait du mal à traiter l'épineuse question de la présence des Noirs sur son territoire ou qui pensait peut-être la régler, mais en maintenant un statu quo favorable à la classe dominante, celle des Blancs, et en ne prenant pas en compte le passé humiliant de l'Africain-Américain. Il faut se souvenir que dans